Atsa tient à souligner que le projet Cuisine ton quartier a été enregistré sur le territoire visé par le traité numéro 1 et que les terres sur lesquelles le projet est installé font partie du territoire traditionnel des peuples Anishinaabe, Cree, Oji-Cree, Dakota et Dene et de la patrie de la nation métisse.
Bienvenidos al podcast Cocina tu barrio.
Cuisine ton quartier.
Cuisine ton barrio.
Cuisine nan quartier avec nous.
Et barrio.
Cuisine quartier.
Cuisine nel tuo quartiere.
Cuisine ton quartier.
Ici Annie Roy de Atsa quand l'art passe à l'action. Premièrement à Montréal, puis dans plusieurs communautés francophones du Canada, je suis allée à la rencontre des personnes immigrantes qui ont appris le français ou qui veulent continuer de vivre en français. J'ai parlé à ceux et celles qui les aident à s'installer et aux artistes qui s'en inspirent, pour livrer une parole essentielle à notre connaissance mutuelle. Ouvrez votre cœur et vos oreilles, le courage et l'inspiration sont ici au rendez-vous. Bonne rencontre! On est ici avec Ginette Lavac et puis Geneviève Pelletier. Ginette, toi, tu es directrice ici au CCFM.
Oui.
Et Geneviève au Cercle Molière. Deux belles femmes formidables. Vraiment, là, je me sens choyée ce matin. Puis, on va parler un peu de comment vous faites vivre la communauté francophone au travers de l'art. Donc, c'est une mission en soi. Oui. Qu'en diriez-vous? Commençons par toi, Geneviève, s'il te plaît.
Ben oui, c'est une mission qui m'a été, je pense, ça fait partie de mes gènes à moi depuis toujours, dans le sens où... La notion de vouloir explorer le vivre ensemble, le comment est-ce qu'on arrive à communiquer. Puis je pense qu'aujourd'hui, c'est encore plus pressant que n'importe quel autre moment dans l'histoire de l'humanité, en tout cas de mon histoire humaine, on pourrait dire. Les gouffres qu'il y a dans les discours, dans les paroles, dans la rencontre, il y a beaucoup, beaucoup, selon moi, à développer autour, et l'art, je pense, pour moi, est un vecteur privilégié, essentiel, pour qu'on puisse sortir un peu de nos carcans à nous et regarder une œuvre, et la regarder avec nos yeux critiques et discuter ensemble et être capable d'aborder des sujets qu'on ne peut pas faire si on commence avec « Tu viens d'où, toi? Tu représentes quoi, toi? T'es qui, toi? T'es... » On a une œuvre devant nous, on est capable de discuter ensemble. Donc, pour moi, en tout cas, je commence la chose un peu en sérieux. Là,
mais c'est parfait.
C'est un peu l'humour dans lequel je suis. On a eu un spectacle hier d'une Sénégalaise, en tout cas pour moi, qui fait un travail, mais juste extraordinaire sur son territoire. Et ça m'a juste fait réfléchir sur plein, plein de choses par rapport à comment nous, sur notre territoire, on peut parfois avoir des moments où on perd un peu le fil de... dans l'économie, dans le succès, dans toutes les choses qu'on nous dit qui sont les vecteurs qui font en sorte qu'on est des êtres humains canadiens, canadiens entre guillemets, qui sont des gens qui arrivent à des échelons. T'sais. Donc, il y a comme beaucoup de...
C'est en évolution tout ça. Hein?
Ouais.
Puis, moi, ça me permet de dire que Atsa, puis Cuisine ton quartier, se retrouve sur le territoire visé par le traité numéro 1, puis que les terres sur lesquelles le projet ici est installé font partie du territoire traditionnel des peuples Anishinaabe, Cree, Oji-Cree, Dakota et Dene, et de la patrie de la nation métisse. Et toi, Geneviève, tu es métisse.
Exact. Mm-hmm.
Et puis donc, tout ça, hier, là, tu parlais d'une Sénégalaise, mais tout ça s'inscrit dans ce territoire qui était habité, qui a été colonisé, et qui évolue, mais que c'est important de reconnaître
tout ça. Oui, complètement. I mean, dans le sens aussi que, dans sa forme coloniale, le Canada est aussi quelque part un colonisateur économique important au sein de beaucoup de pays africains,
ouais,
on pourrait dire.
C'est
et
vrai.
Donc, les gens qui viennent ici sont aussi porteurs d'un imaginaire canadien qui est probablement irréel, qui n'est pas nécessairement exactement... Et en même temps, nous, en tant que Canadiens, il faut se responsabiliser par rapport à les actions qu'on pose ailleurs aussi sur les différents territoires. Et il y a une raison pourquoi les gens veulent venir ici. Il y a comme un... Donc oui, alors il y a comme cette drôle de... On parle de colonnes. Ben, c'est sûr que les raisons sont plutôt, je pense en tout cas, parce que je peux juste stipuler, parce que je ne suis pas, je suis pas migrante, mais économique, vouloir donner à la famille tous les possibles possibles, le droit de rêver, le droit de vivre autrement que dans des territoires où il y a justement énormément de conflits. C'est le Canada est ce qu'il est aussi. Hein. C'est une terre qui est aussi, a été heurtée grandement par la colonisation et qui a encore des plaies ouvertes et donc qui se doit aussi de faire une auto-réflexion importante. C'est complexe hein, avec la pandémie, avec toutes sortes de choses. C'est, les gens ont des plaies même à eux, tu sais, même... Toute genre, toute forme, tout, c'est comme, il y a toutes sortes de choses à...
Ouais.
Donc, c'est comme on est dans un temps où on veut reprendre, on veut retourner dans une rythmique pré-pandémique avec toutes sortes de choses qui nous... Tu sais, qu'on... Économiquement, mais il y a tellement de choses qui ont été absorbées, faites pendant cette pandémie, mais au-delà même de ça, quand on pense à George Floyd, quand on pense à les écoles résidentielles, quand on pense à une multitude de choses qui sont Joyce Echaquan au Québec, tu sais, il y a toutes sortes de choses là qui font en sorte qu'on est dans un moment, je pense, une période où on a vraiment besoin de temps pour repenser en tant qu'humain où est-ce qu'on veut aller.
C'est peut-être une belle période pour reconnecter autrement. Qu'est-ce que tu en penses, Ginette?
Absolument. Je veux dire, je pense que on va 100 000 à l'heure, puis j'avais l'opinion ou l'idée quand toute cette affaire-là a commencé qu'on voulait se donner une pause, mais que c'est pas vraiment arrivé ou ça n'a pas duré longtemps. Donc là, c'est pas toujours facile de continuer à 100 000 à l'heure puis d'avancer sans se donner un temps de réflexion. Mais c'est de trouver les moments de se le permettre puis de faire de la place dans nos vies pour ces moments de réflexion, là, justement.
L'art dans tout ça, t'en parlais tantôt, Geneviève, puis pour toi, comme non, CCFM, Centre culturel franco-manitobain. Mm-hmm. Donc, faire de l'art en français au Manitoba, accueillir ces nouveaux visages, sans oublier les racines, c'est un gros mandat?
Énorme! puis on est dans le pluridisciplinaire, justement, donc la création dans toutes ses formes, que ça soit l'art visuel, la musique, la danse, puis on veut s'assurer aussi que le bassin d'artistes chez nous demeure fort, qu'il soit toujours en équation, mais il faut aussi que ces communautés-là veulent participer. Donc, ça peut pas venir de nous, il faut que ça vienne de la communauté, il faut que ça vienne des artistes. Donc, nous, c'est de s'assurer qu'on est toujours là pour instiguer, de créer le dialogue, de créer des connexions qui vont nous permettre justement d'appuyer ces artistes-là ou même de les identifier, ces artistes-là. Il y en a qui ne savent pas qu'ils sont ou qui sont en devenir. Mm-hmm. Puis, honnêtement, ça, c'est quelque chose que je vois énormément au TCM, que j'apprécie. Puis c'est un bel exemple, justement, de gens qui sont en train de découvrir leur capacité artistique via différents projets que nous, on peut évoluer puis développer ensemble.
C'est ça. Fait que ce que tu dis, c'est faire de la place aux nouveaux visages, à cette communauté francophone qui change, qui évolue, puis qui a besoin des nouveaux arrivants de partout pour grandir. Comment vous travaillez ensemble là-dessus, ou chacune de votre côté?
Bien, grandir, je pense que pour plusieurs raisons, l'immigration au Canada est essentielle. Dans tous les secteurs, dans toutes les langues, dans tout ce qu'il y a. On a eu 2 ans là, de plus avoir de gens qui sont arrivés au pays et on voit une main-d'œuvre abaissée par affaiblie. Ça. On affaiblit. Et donc, quelque part, ça touche à tous les secteurs, on va dire, économiques et même puis artistiques, tu sais. C'est intéressant parce qu'on est vraiment dans un moment très charnière. Tu sais, on a des bailleurs de fonds qui nous disent Vous devez... Puis nous, ça fait longtemps qu'on est dans cette démarche-là d'inclusion, de diversité, de volonté, de vouloir avoir non seulement sur les scènes, dans la salle, mais en périphérie aussi, des publics, des gens qui viennent, qui se côtoient, qui jouent avec nous. Mais en même temps, on nous demande quand même de performer, d'arriver à avoir des quotas similaires, à être... Et donc, c'est très difficile, moi je dirais difficile. Le défi. Puis moi, je vois les défis comme des opportunités. C'est que on peut pas aller plus vite que qu'est-ce que les gens autour veulent, le rythme qu'eux veulent amorcer la chose. On peut pas dire à la communauté de nouveaux arrivants, OK, vous allez arriver là, vous allez vous mettre sur scène, vous allez venir dans les publics, Alors, et ça, c'est ne tenant pas compte le fait que la communauté, on va dire plutôt traditionnelle, n'a pas nécessairement créé de lieux de rencontres, de débats, de découvertes pour se dire « Ah, voici des nouvelles communautés qui arrivent, comment est-ce qu'on peut les accueillir? » C'est plus comme les gouvernements ont décidé « On a besoin de main-d'œuvre, on a besoin de ça, plonk, voici dans la communauté et on n'a pas nécessairement les outils. » Alors, c'est à nous, en tant que vecteurs artistiques, quelque part, de créer ces espaces de rencontres, mm-hmm. de débats, de découvertes. Mais on ne peut pas aller plus vite ou on ne peut pas nécessairement faire en sorte que ça va être la même chose qu'auparavant. On a besoin de temps pour se découvrir l'un l'autre, pour se mm-hmm. séduire l'un l'autre, mm-hmm. pour arriver à se poser des questions. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que nous, on peut vous donner? Qu'est-ce que tu sais? Et toutes ces choses-là, c'est des étapes, je trouve, dans le processus qui sont un peu escamotées parce qu'on veut tout de suite des spectacles, on veut tout de suite des publics, on veut tout de suite tout ça. Et puis, c'est impossible de le faire au niveau de ce que je vais dire étant... cette idée d'excellence artistique qui est toujours très présente sur le territoire, qui vient d'un eurocentrisme très présent encore, qui ne compte pas nécessairement ces temps où il y a des moments où, comment on pourrait dire, c'est des entre-deux, des genres de temps où il faut qu'on amène les gens vers quelque chose. Mm-hmm. Et nous, il faut qu'on soit aussi... Mm-hmm. Il faut qu'on absorbe ce qu'ils ont à donner. Réceptif parce qu'on a ça. Aussi à prendre... Ouais. De tout ça. Et
plus donc, de place pour l'expérimentation.
Complètement.
Parce que je remarque à quel point il y a du talent et tout ça. Je trouve que les églises sont vraiment des vecteurs d'accueil, puis où il y a beaucoup, puis où souvent se découvrent des talents musicaux, tu sais, comme une plateforme un peu justement où les gens de peut-être de partout vivent l'art d'une autre manière, d'une manière plus dans la vie, dans la foi, dans la spiritualité, qui est peut-être quelque chose qu'on peut retrouver aussi beaucoup vers les Premières Nations. Y a-tu des choses que tu sens comme des accroches, des passages pour mieux se connaître au travers de ça?
Oui.
Des partages
oui,
dans de bien la sûr.
Moi, c'est par l'entremise de la curiosité. C'est juste la volonté d'être à la rencontre de l'autre. Oui. C'est de vouloir accepter que quelqu'un d'autre a tout un autre paquet de culture derrière lui qui n'a pas du tout de référent comme nous ou comme moi et de vouloir faire « Wow, OK, comment est-ce qu'on peut arriver à en faire une soupe et manger ensemble mm-hmm, et discuter mm-hmm. et parler mm-hmm. parce qu'on parle de bouffe là, il faut bien que je fasse des
beaux
des
métaphores.
J'avais un projet qui s'appelait le temps d'une soupe justement pour se parler ensemble.
Mais par rapport à tout ce qui est nation métisse francophone, parce que c'est oui. sûr qu'il y a c'est complexe, la nation métisse. Alors, puis c'est comme une complexité qui est parallèle à la complexité autochtone du pays, parce que quand on va d'un côté à l'autre, les langues, les cultures, les traditions, il y a des similitudes certaines, mais il y a plein de choses qui font en sorte qu'il y a une souveraineté individuelle à chacune de des tribus. Et donc, la nation métisse est aussi un peu dans ce vecteur-là. La nation métisse francophone, c'en est une qui est la nation métisse mère, on pourrait dire.
Mais en même temps, elle a été tellement saccagée, tellement heurtée, tellement fragmentée, tellement, il y a tellement de douleur quand je pense à, mettons, mon grand-père, je pense à mes ancêtres qui ont vécu, mettons, le début du 20e siècle, qui a dû être très, très difficile pour eux. Cette volonté de vouloir oublier, effacer, anéantir, s'assimiler, toutes ces choses-là sont des choses qui, moi, maintenant, m'ont été léguées. Moi, je suis deuxième génération de mon grand-père, on pourrait dire, qui a voulu stopper, on pourrait dire, la passation des traditions, la passation de qu'est-ce que c'est d'être métisse. Et donc, moi, j'ai vécu longtemps en sachant que j'étais métisse, mais ne pas sachant qu'est-ce que ça voulait dire. Mm-hmm. Et pour moi, m'affirmer métisse, c'était toujours synonyme avec je dois avoir une communauté, je dois avoir des actions, je dois me sentir comme si je fais partie de quelque chose. C'est pas nécessairement juste passivement dire je suis métisse, c'est je suis métisse et je fais ceci. Donc moi, je me considère une métisse porteuse de forme artistique contemporaine. C'est comme ça que je me vois. Je suis passeuse de sens dans cette sphère-là. Mm-hmm. J'ai beaucoup de respect pour les traditions. Je trouve ça extraordinaire, les gens qui veulent retourner, reprendre. Je parle d'archéologie vraiment personnelle, intime, autour de cette chose-là. Tu sais, c'est des choses qu'on fait avec maman, avec ma fille. La langue, toutes ces questions-là se posent de façon hebdomadaire, quotidienne chez nous. Donc, c'est des conversations qui sont riches de sens pour nous, mais qui peuvent parfois être complexes de l'extérieur. Donc, c'est vraiment un processus en ce moment de voir, OK, bien, quelle est ma place là-dedans? Comment est-ce que j'arrive à faire valoir, à parler de cette chose-là de façon cohérente et en être un vecteur important? Parce que je pense que le théâtre, la musique, l'art hein, globalement est porteuse de culture et je pense que la culture métisse francophone a certainement une place sur ce territoire-ci par rapport à l'art qu'elle offre ou qu'elle veut projeter.
C'est beau de voir comment visible que c'est de nos jours. Puis, j'essaie de me souvenir, même moi, en grandissant, jusqu'à quel point que j'étais connaissante ou reconnaissante de ça. Puis, je ne l'étais pas vraiment. On ne le voyait pas chez nous, on ne le voyait pas ici. Mais là, puis peut-être c'est parce que j'œuvre dans le culturel, dans mon quotidien. Donc, je m'expose davantage à ça. J'ai les occasions, je les recherche par intérêt. Mais que c'est plus visible aujourd'hui, je crois. Puis pour moi, c'est enrichissant parce que je pense que c'est ça qui fait justement qu'on apprend à se connaître davantage, qu'on s'intéresse dans notre communauté, c'est en voyant ces distinctions-là, ces différences-là, puis en les appréciant de par diverses activités culturelles, artistiques. Mm-hmm.
C'est vraiment riche, hein, la communauté francophone, quand tu dis ça ici, parce que hein, la communauté, disons, traditionnelle, première métisse, là, francophone, francophone, après ça, là, tous les nouveaux arrivants francophones, ça crée vraiment une immense diversité culturelle au travers de tout ça. Hein, Ginette, comment tu fais vivre ça dans ton centre?
C'est ça, ça me fait réfléchir parce que, étant francophone en situation minoritaire, on l'entend souvent ici, on parle de l'autre côté de la rivière, on parle de l'anglophonie là-bas, mais qui est toujours apporté, puis qu'il y en a certains d'entre nous, comme moi j'ai œuvré longtemps du côté anglophone, mais je suis revenue dans ma communauté francophone, parce qu'il y a quelque chose en moi qui a déclenché, puis qui a dit non, je suis prête à, je désire m'intégrer davantage, puis de reconnaître que je suis franco-manitobaine, que je suis de souche, je suis d'ici. Mm-hmm. J'ai appris le français en premier, j'ai appris l'anglais en second, mais là... C'est facile en situation minoritaire comme ça de se laisser emporter par tout ce qu'il y a à l'extérieur. Mais que c'est juste en m'intégrant dans les dernières, je sais pas, ça fait peut-être une quinzaine d'années que je suis de retour à travailler. Puis ça m'a fait apprécier davantage justement cette diversité-là, puis de la reconnaître. Puis comme je disais, je pense que chez nous, au centre, ce qu'on tente de faire, c'est d'aller vers les communautés puis d'instiguer des conversations, mais que c'est une rue à deux sens. Faut que le partage, faut que, en quelque part, ça vienne de chez eux aussi, mais que de plus en plus, on voit, je pense qu'en offrant une occasion en démontrant qu'on a cette volonté-là, puis que les gens voient une exposition, ils voient une activité, puis là, ils mettent à penser, « Ah, OK, ça se passe comme ça au centre. Peut-être que moi, je devrais aller leur parler, puis voir s'il y a une occasion mm-hmm. que moi, je m'intègre, que moi, je fasse quelque chose. » Puis que c'est, mais il faut commencer par une, puis que là, par la suite, ça va se propulser, ouais, puis qu'il y aura d'autres occasions.
Je comprends que c'est comme la fine ligne entre gardien de tradition mm-hmm. et ouverture, pas jamais être dans la crainte, être dans l'accueil, être dans... Mm-hmm. Parce que, tu sais, c'est ça aussi, hein, on vit ça. Toute la francophonie, je dirais, Amérique du Nord, a cette espèce d'équilibre à trouver, puis à accepter aussi que la francophonie, elle change, elle change. Les visages changent, puis que si on veut continuer, ben il faut aussi être dans cet accueil-là, puis vraiment avoir les bras ouverts.
On a un projet ici, puis on est en réflexion, à savoir peut-être c'est le moment de faire des changements. Il y a un festival ici à Winnipeg nommé Folklorama. Ça se passe à chaque été. C'est des pavillons qui représentent différentes cultures. Donc, il y a un pavillon filipino. Il y en a maintenant pour les Premières Nations également. Il y a italien. On nomme tous les pays. Puis que les communautés de ces cultures-là mettent en marche un pavillon qui représente leur bouffe, leur culture, ils font des spectacles, etc. Et nous, au CCFM, on gère, on met sur pied le pavillon canadien-français.
Uh-huh.
Mais canadien-français, mais c'est même pas franco-manitobain, on parle de canadien-français. Donc, c'est large, mais ce n'est pas. Là, on se dit la francophonie est changeante, même dans notre nom. Il y a plusieurs organismes à Saint-Boniface qui ont commencé, à Saint-Boniface dans la province, qui ont changé leur nom pour représenter la francophonie manitobaine et pas juste franco-manitobain.
Ouais.
La SFM, par exemple, la Société de la francophonie ouais. manitobaine.
Pour que plus de monde se reconnaisse.
C'est ça. Mais que nous, puis là, on se fait questionner aussi, est-ce que le centre va changer son nom? Est-ce qu'on va évoluer puis mettre francophonie manitobaine plutôt que juste culturel franco-manitobain. Donc, c'est à voir comment est-ce qu'on peut davantage utiliser les occasions qu'on a, les activités, les événements culturels pour être plus inclusif, ouais. être plus représentatif de notre francophonie telle qu'elle est aujourd'hui, puis qu'elle est toujours en évolution.
Oui, puis vous avez un rôle vraiment essentiel, comme tu dis, de rassemblement, parce que souvent, le nouvel arrivant, OK, qui est francophone, il y a des points de plus, ça fait qu'il arrive ici comme immigrant peut-être plus facilement parce qu'il parle français, mais une fois arrivé, il se rend compte qu'il a vraiment besoin de l'anglais pour travailler, etc., etc. Puis, quand même, c'est pas facile d'immigrer, fait que vite, il peut se détourner de son français pour faciliter toute son intégration. Donc, vous jouez un rôle, je veux dire, primordial pour ce qui est de se rassembler autour d'œuvres d'art, de spectacles, de créer une communauté qui fait que, mis à part toutes les béabas là, de logement, épicerie et tout ça, ben, on a une vie culturelle en français qui fait qu'on sent qu'on se retrouve ensemble puis qu'on peut continuer dans notre langue. Puis j'ai été vraiment épatée aussi de voir à quel point les personnes qui quand même arrivent ici en français comprennent la mission. C'est OK, qu'on leur donne un peu de faire en sorte qu'il y ait une belle survie de la langue française et du fait de vivre en français ici, parce qu'on leur dit quand même aussi, tu sais, il y a eu des batailles, là. Mm-hmm. C'était pas gagné d'avance, puis là, il y a des droits qui ont été reconnus, puis il faut que ça continue. Je l'entends dans mes entrevues, puis ça m'a donné de l'espoir, donc...
C'est intéressant, c'est pas quelque chose qu'on apprend à l'école, ça.
Non.
Non. Puis, je suis heureuse de voir maintenant qu'il y a plus de reconnaissance de toutes ces batailles-là. Je pense que c'est important qu'on continue à en parler. Mais, j'essaie de voir d'où ça vient, le fait qu'on a cette reconnaissance-là aujourd'hui, qu'on ne l'avait pas auparavant, parce que, comme je dis, c'était pas vraiment visible. C'était, je sais pas si toi, tu te souviens... Peut-être un peu plus, mais...
Je ne sais pas, mais je vais juste faire un petit retour. C'est juste que... C'est pas que je trouve ça problématique. Il y a des choses là-dedans que je pense qui sont très intrinsèques à certaines personnes, mais je suis pas certaine à quel point... Parce que le français est quand même une langue coloniale sur le territoire de l'Afrique l'Afrique de l'Ouest, le territoire de l'Afrique francophone. Mm-hmm. C'est aussi une langue coloniale sur notre territoire. Je ne diminue pas cette chose-là. J'essaie juste de... C'est moi-même dans mes propres questionnements personnels qui rentrent là-dedans à se poser la question parce que, tu sais, je me rappelle dans une rencontre justement où on parlait justement de ça, puis quelqu'un de la francophonie d'ici, on pourrait dire de traditionnel d'ici, fait, ben vous êtes ici pour nous aider à garder la langue en vie. Et puis quelqu'un dit, oui, mais ça, c'est un énorme fardeau, là. C'est juste gros, là. Mm-hmm. Je ne sais pas si moi, je suis venue au Canada pour porter cette
peut-être
bataille-là.
Peut-être pas en tant qu'individu, mais en tant que nombre. Certains le font, ont le goût.
Oh, hein? Oui, ça, je le sais.
Puis d'autres, peut-être que c'est lourd.
On le voit complètement. Il n'y a pas de, doute... on est dans un territoire où, qui est génial dans le sens où on peut faire tout ce qu'on veut ici.
Oui.
Vraiment, on a une liberté là, d'action, mais de champ d'action juste extraordinaire. C'est juste que le champ d'action n'est pas, c'est pour quelqu'un qui a un ego qui est comme le mien, là, par vous, n'est pas assez large, on pourrait dire, pour rentrer dans toutes les ce que je voudrais, dans les succès, puis dans où est-ce qu'on peut aller avec tout ça, et le champ de vision. Moi, j'ai quelqu'un qui veut travailler sur tous les échelons national, international et tout, et je le fais, mais c'est de d'autres c'est de plusieurs différentes façons, mais comme je trouve ça intéressant, si quelqu'un veut venir ici, vraiment, là, ça prend pas grand-chose pour dire... OK, parce qu'il n'y a pas grand monde. Tu sais, si tu as une idée ou quelque chose et tu dis, ah ben, j'ai besoin d'une porte à ouvrir, c'est juste qu'il faut savoir où sont les portes. Et il faut avoir les clés de ces portes-là. Et souvent, les clés et les portes sont des gens qui avaient été ici. Puis on s'entend, là, beaucoup de gens qui sont ici sont de vagues migratoires antécédentes. Ce n'est pas des gens qui sont ici depuis des millénaires. Mm-hmm. C'est vraiment des gens de 150 ans de colonisation. Mm-hmm. Donc, c'est eux qui ont les clés, c'est eux qui ont les portes, c'est eux qui peuvent ouvrir ces portes-là. Et des fois, c'est ça qu'il faut. C'est qu'il faut avoir la volonté parce que des deux côtés, je suis d'accord avec Ginette, c'est des portes battantes. Là. Il faut avoir la volonté d'un côté et aussi la volonté de l'autre pour laisser l'autre prendre sa place aussi.
Puis on en a parlé avec beaucoup d'émotion d'une personne nouvellement arrivée qui reconnaissent justement les Premières Nations, tout ce dont on a parlé tout à l'heure, et qui voient dans leur passé, dans leur pays, le mal que la colonisation a fait aussi. Donc, il y a des reconnaissances, je dirais, profondes dans les émotions, même si c'est pas tout à fait exactement la même chose, mais tu sais, d'avoir vu ces traditions bafouées et l'oppression de la colonisation est quand même quelque chose où les personnes se reconnaissent, tu sais, au travers de ça, même s'ils ne viennent pas des mêmes cultures. Donc, tu sais, il y a des rapprochements quand même à faire au niveau de l'empathie et tout ça. Puis on en a parlé, puis plusieurs en ont parlé avec beaucoup de profondeur et d'émotion. Puis là aussi, je me disais, ah, on n'arrive pas dans un territoire sans non plus qu'il y ait... Il y a des gros bagages, hein, de la colonisation de partout, puis avec ces flux migratoires dans le monde, tranquillement quand même, les gens aussi se reconnaissent là-dedans, puis le voient, puis je pense qu'au contraire, ça fait avancer la reconnaissance mutuelle de tout le monde de ce fait-là, hein?
C'est joli. Oui, je suis d'accord.
Parce qu'on est juste plus... en parler, puis peut-être plus à le reconnaître, puis à en être conscient. Mais en même temps, on le sait comme francophone que c'est quand même important de vouloir continuer de parler dans notre langue, puis qu'elle c'est pas fait d'avance, là. Je veux dire, les jeunes, même à l'école Louis Riel, là, dans le corridor, puis je suis passée l'autre fois, puis ils rentraient tous en autobus, mais je m'excuse de dire qu'ils parlaient anglais, là.
C'est sûr, mon fils
donc,
aussi, c'est au collège.
Comment vous sentez, vous, comme maman, là, de ça?
Mais comment je pourrais te dire? Pour moi, je n'ai jamais vu la vilification d'une autre langue comme étant un champ d'action intéressant pour quoi que ce soit. Donc, pour moi, il y a juste au Canada, selon moi, où on dit que le bilinguisme, c'est quasiment, il faut pas, tu sais, on tente de se dire, connaître deux langues ou connaître l'anglais quand on est francophone, il faut faire attention, ta, ta, ta. Il y a plein de places dans ce monde et je pense que beaucoup de nos amis qui viennent de l'Afrique de l'Ouest pourraient attester de ça. Oui, ils sont quadrilingues, ils connaissent 5 langues, ils sont... Il y a justement Patricia qui est chez nous, qui est sénégalaise, qui parlait du fait qu'elle a appris le français pour être capable de parler au français et pour pouvoir lui dire de ne arrêter, je vais le dire de façon crue, là, mais arrêter de fourrer dans le contexte de la colonisation, ouais, d'être oui. capable de négocier avec eux. Donc, quelque part, ça, je trouve ça fascinant par rapport à la langue. Oui, mais ça,
c'est merveilleux.
Je parle juste, et je suis d'accord, tu sais, mais je trouve que l'influence américaine, globalement, c'est pas juste chez nous, là, c'est global, est énorme, a un chemin, un terrain, mais juste
fluide. Plus que dans la langue, là. Tu sais, on parle oui, de l'hégémonie culturelle, tout.
Complètement. C'est majeur. La bouffe, dans tout, dans la malbouffe,
on va dire. Oui.
la manière donc, de commercer, la manière de tout.
La manière de tout, là, tout. C'est dans le monde entier, là, c'est qu'on a mis en place des systèmes autour d'une... Puis on le voit, la démocratie qui est en train de complètement s'effondrer aux États-Unis. Et là, c'est ces préceptes-là sur lesquels on a fondé un monde libéral, néolibéral, et qu'on voit qu'il y a des fragilités, mais totales à cet égard. Mais l'emprise américaine est toujours aussi présente au niveau culturel. Mm-hmm. Ces compagnies-là vont et financer un côté et de l'autre pour être capables de rester dans les enjeux économiques importants. Tu sais, on s'entend que... Là aussi, tu sais, je rentre dans des sphères, mais tu sais, il y a plein de banques canadiennes où tu vois et toute la diversité qui se passe, mais tu sais, c'est par rapport à une économie quelconque à échelle qui fait en sorte que ça les bénéficie, eux. C'est pas nécessairement dans la volonté de vouloir vivre ensemble. Mm-hmm. Tu sais, les fameuses...
On parle coche une boîte.
Le Coca-Cola, tout ça.
Mais là, on parle vraiment plus d'un système économique. Mais quand on revenait à la langue et tout ça, puis oui, c'est pas de mettre des langues l'une contre l'autre, mais c'est sûr que la crainte de l'assimilation et de l'oubli est quand même concrète. Dernièrement, dans une autre ville, j'ai rencontré une francophone, mais qui disait, là, on est rendu à se faire des French Fridays. Elle me le disait en anglais, parce qu'on l'oublie, notre langue, à force de ne pas la parler. Puis même des francophones africains qui arrivent ici, qui, à force de travailler en anglais, etc., finissent par dire « Ah, des fois, j'oublie quel pronom le ou la mettre devant un mot. » Elle est vraiment là, quand même, cette assimilation-là. Qu'en penses-tu, Jeanette?
Oui, je veux dire, moi, je pense que je le vis au quotidien, parce qu'on... pense dans les deux langues. J'ai réellement grandi complètement dans les deux langues, à tout moment presque. Donc, j'ai fait mon école primaire en français, mon école secondaire en anglais, mon université en français. Puis là, je me suis mise sur le marché du travail. Puis j'ai travaillé pour des entreprises, des organismes francophones, anglophones, là, retourné aux francophones. Puis j'étais mariée, mon mari était unilingue anglophone. Puis, il y avait un désir, il y avait un intérêt d'apprendre le français un peu, mais on n'a jamais vraiment poursuivi ça. Donc, quand on était ensemble, puis en famille, on switchait à l'anglais, mais qu'il y avait des moments, puis on se gênait pas de parler en français en gang aussi, puis que lui pognait des bouts, puis ça l'allait. Mais il faut avoir vraiment, réellement le désir d'être multilingue, puis de continuer à les renforcer, de les utiliser. Puis c'est ça, je me retrouve des fois à penser dans une langue ou dans l'autre, d'oublier les mots dans une et dans l'autre. C'est vraiment, il faut faire des efforts, puis je pense que c'est important, hein, sans vouloir vilifier une autre langue, mais se dire que de faire des efforts concrets et de vraiment se pratiquer, puis d'assurer qu'on choisit de vouloir vivre avec plus qu'une langue, qu'on met des énergies envers ça et comment est-ce qu'on les utilise puis qu'on les intègre dans notre vie.
Oui, puis c'est quand même une responsabilité. Il faut se responsabiliser par rapport à ça. Puis quand même, il y a des nouveaux arrivants qui m'ont dit on a eu la chance quand même de pouvoir venir ici plus facilement parce qu'on parlait en français. Oui. Donc, à partir de là, il y a une forme de responsabilité quand même de se dire, sans vouloir être lourd, puis je comprends ce que tu veux dire, mais une sorte de respect, de dire, étant donné que je suis ici parce que aussi je dois contribuer à la communauté francophone, je vais faire cet effort-là. Mais évidemment, on c'est David contre Goliath un peu, puis on est tous un peu investis d'une sorte de mission quand on, si on veut que la langue française continue, c'est quand même un gros mandat.
Oui, oui. C'est vrai. C'est aussi un choix, une responsabilisation pour tout être qui est sur ce territoire-ci, qui a la chance, c'est un privilège de savoir, de connaître deux langues. Et c'est un privilège de connaître le français et de vivre, de pouvoir vivre cette culture-là en parallèle avec toutes les autres choses. Pour moi, c'est vraiment une reconnaissance énorme que j'ai envers... Parce que moi, de mon côté, du côté de mon père, ils sont presque tous venus du Québec, puis à l'intérieur d'une génération, plus de français, mais rien du tout.
Imagine, c'est comme un revival.
Que, mon père s'est lié avec maman, et maman, pour elle, le français, et c'est souvent par l'entremise de la mère, on pourrait dire, ça c'est un autre fardeau qu'on a en tant que femme de foyer. C'est cette gestion ou cette volonté de garder la langue présente et de faire valoir cette langue-là. Mais cette langue-là ne peut être que value, je trouve, que par l'entremise d'expérience, d'art, d'aller quelque part et de vivre quelque chose, de se dire comme mon fils était là hier et voyant toutes les complexités des jeunes de la rue, on pourrait dire, sur les rues de Dakar, ça venait lui le nourrir en français, ça venait le nourrir lui en tant que jeune francophone et de se dire, il y a d'autres, il y a d'autres francophonies, elle est multiple cette francophonie et pourquoi? Et c'est une des choses que je trouve qui est difficile chez la francophonie. Oui. L'anglophonie a tendance à vouloir à rassembler, tandis que la francophonie se vit en silo souvent. Okay. Il y a les Français, il y a les Québécois, il y a les francophones du Manitoba, il y a les francophones... Et plutôt que de se dire qu'on vit une francophonie multiple sur une multiplicité de territoires, c'est là où moi je trouve qu'on a notre force. Parce que le français, en principe, si ça va comme ça devrait aller... va être probablement la langue la plus parlée dans 20 ans ou quelque chose dans le monde entier. Et donc, de faire valoir, si j'avais un ami qui me disait que quand il avait amené ses enfants au Québec, puis que je pense qu'il avait été à McDonald's, c'est peut-être pas le meilleur exemple, mais de se faire servir dans ce contexte-là, pour eux, c'était comme « Oh! »
Complètement nouveau.
C'est possible. Ouais. C'est juste ces expériences-là qu'il faut qu'on comprenne, parce que si quelqu'un ici... vit sa francophonie ou c'est une langue seulement de service dans le sens qu'elle se vit qu'à l'école, qui est souvent le cas parce que beaucoup de parents vivent en anglais ou vivent dans des communautés ou des couples qui sont mixtes, dépendant de où est la place de la langue dans la famille, dans la tradition, tout ça, ça devient juste une langue où, puis on le voit, puis c'est pas pour... Je trouve que le système d'immersion est extraordinaire au Manitoba et il y a beaucoup de gens qui ont des bases de francophonie énorme sur le territoire, mais on le sait, s'il n'y a pas un apport culturel, s'il n'y a pas une expérience vécue, cette culture, cette langue-là peut se perdre, mais elle est facilement mise de côté parce qu'on a la culture américaine qui est tellement facile d'accès avec l'anglophonie. Mm-hmm. Même la culture canadienne se pose beaucoup de questions à savoir qu'est-ce qu'elle est elle-même. Alors,
qui n'ont pas cette différence de la langue, même pour se différencier, puis tout ça. La culture, ça fait que la langue se vit, la langue est vivante. Puis, je suis d'accord avec toi, c'était beau. Il y en a d'ailleurs des participants qui nous ont dit ça. J'ai rencontré, par le biais de la langue française, encore plus de diversité culturelle. Mm-hmm. Puis, ça les a fait voyager et rencontrer encore, comme s'ouvrir sur le monde encore plus que si en anglais. Puis, ça, je pense que c'est une richesse sur laquelle on peut miser. Puis je pense qu'on peut aussi ne pas être gêné, pas juste comme une revendication, mais on devrait plus souvent dire bonjour en français ou au restaurant, voir le menu, tout ça, parce que c'est étonnant de voir à quel point la personne devant nous est peut-être francophile ou francophone, puis qu'elle va nous répondre en français, mais si on ne lui donne pas l'occasion, puis qu'on l'aborde directement en anglais, on ne lui donne pas l'occasion de la vivre sa langue elle aussi, puis... Je voudrais pouvoir dire bonjour à la serveuse ou au serveur en français sans que ce soit une revendication, mais juste parce que c'est naturel. Mm-hmm. Puis je trouve qu'on devrait le faire de plus en plus parce que c'est génial de voir « Hey, toi aussi! » On se permet les uns les autres de vivre notre culture francophone
tous les courriels que j'envoie, que ce soit à quelqu'un qui est francophone ou anglophone, c'est toujours bonjour, c'est toujours merci, bonne journée à la fin. Puis même que je vais parsemer dans le courriel même, sachant que ces gens-là, soit qu'ils en connaissent un petit peu ou qu'ils vont rechercher parce qu'ils sont curieux, mais que veut pas, je suis Ginette, j'écris un courriel, puis je mets bonjour, puis chaque fois.
Je pense que c'est important de travailler sur la non-invisibilité. Parce que c'est facile d'être invisible étant donné qu'on est bilingue, puis qu'on peut parler anglais, puis qu'on peut rendre notre français invisible. Je sais pas.
Mais les gens sont hyper généreux ici. Quand j'accueille des gens d'un peu partout, que ce soit du Québec ou d'ailleurs, si on va à un restaurant, puis on dit bonjour, ils vont nous dire « Oh, je connais quelques mots » ou « je peux... » Mais ils tentent, ils vont sortir les 10 mots qu'ils ont de leur poche. Ben, ils vont dire « Voici mes 10 mots, puis je pense que c'est comme... » Puis ils vont souvent, si tu dis « Merci », ils vont dire « De rien », ils vont dire « Ah oui, c'est quoi le c'est mot vrai? Pour dire « Bienvenue, merci » ou on, le retour de... » Souvent, on a ces conversations-là. Et oui, moi, je pense que c'est un délice même. C'est juste un plaisir de l'aventure aussi d'être dans ce contexte-là, avec ce rapport-là avec les gens.
Je trouve que ça revient à ce que tu disais tantôt. Tu sais, quand tu es un peuple, tu sais, évidemment, rien à voir avec les Premières Nations qui ont vécu, mais quand même qui a été opprimé de ne pas pouvoir vivre sa langue, de retrouver comme ce naturel et tout ça, puis... C'est pas une victimisation.
Non, au contraire, je pense que...
C'est pas non plus... C'est une fierté, c'est une normalité.
C'est qui nous sommes.
C'est ça. Puis en faisant ça, je pense qu'on établit du plaisir au travers de ça. Puis je pense que c'est comme ça qu'il faut aussi aller gagner, je pense, le cœur de chacun en français. Puis je trouve ça vraiment beau, tout ce que vous dites, tous les deux, de pas les rendre en antagonisme, mais plutôt... de faire revoir le français comme quelque chose qui n'est pas juste une bataille, mais vraiment un plaisir.
Mais on est aussi dans une ère où l'identité prime. On veut, tu sais, on veut pas être juste homogène, une chose. On veut être multiple. On veut se dire, moi, j'appartiens à la communauté. Mettons, pour moi, je suis une femme. Je m'y prononce en elle. Je vis en français. J'ai une famille. J'ai des enfants. Je suis cis. ce genre de non, mais tout le monde
ça,
veut.
Est-ce que ça, et ça donc, je me pas dis. Aussi low?
Non, mais moi, je trouve qu'il y a quelque part de la francophonie. Moi, je suis anglophone, je parle deux langues. Je parle un petit peu d'espagnol, je parle un peu de... On aime se définir envers les autres, et je pense que ça peut être un plaisir aussi, cette chose-là. Est-ce que c'est un silo? Je sais pas. On va arriver probablement au bout de cette chose-là à se dire, oui, t'es différent de moi. Mais en ce moment, on a besoin de se diversifier ou se faire reconnaître en tant qu'individu dans cette société. Mm-hmm. On est dans cette époque-là, je trouve. Oui. Et je pense que la langue peut certainement contribuer à cette chose-là, tu sais. Moi, ça m'excite beaucoup, hein, tout ce qui se passe là, au niveau de... En tout cas, de cette jeunesse qui veut prendre sa place. Mm-hmm. Comment est-ce qu'on arrive à faire en sorte qu'elle puisse prendre la place, avoir l'épanouissement? Puis, oui, justement, la francophonie, selon moi, est dans une des premières places, là, dans ces conversations-là que j'ai avec... multiples différentes générations.
En tout cas, vous avez des vecteurs extraordinaires pour explorer tout ça, puis offrir à toute la communauté manitobaine des occasions extraordinaires de vivre le français, d'explorer ou de célébrer tout ça. Puis votre plus gros défi, chacune d'entre vous qui s'en vient, et où votre espoir, votre désir, votre partage...
Mais moi, mon plus grand désir, je vais commencer par ça, parce que c'est vraiment c'est inscrit en moi, c'est vraiment d'arriver à trouver une façon d'explorer le vivre ensemble sur une multiplicité de formes. Ça m'excite beaucoup, cette chose-là. Mon plus grand défi, pour l'instant, avec le théâtre, parce que je vais parler du théâtre, c'est regarder, on pourrait dire, ce qui reste de cette ère pandémique, d'en faire un bilan important, et d'être capable de construire à partir de ça.
Donc, je pense, pour moi, mon plus grand désir, c'est justement de voir à ce qu'on établisse une vision commune pour l'avenir de notre centre culturel. que ça soit partagé, collectif, et puis que tout le monde se mette derrière ça, parce que pour eux, d'avoir une maison de la culture, une place de rassemblement, puis d'épanouissement de notre langue, de notre culture forte, est important pour eux. Donc, pour moi, c'est peut-être le plus gros désir. Le plus gros défi, c'est de voir à la stabilisation du centre, parce qu'on est très fragilisé en fonction de, non seulement la pandémie,
mais... Financièrement, tu veux
financièrement,
dire?
Oui, oui. De par notre statut d'agence de couronne. Donc, c'est un travail, un gros travail qu'on a à faire prochainement pour convaincre ceux qui appartiennent au centre de vraiment nous appuyer.
Mais comment ça se fait que vous n'avez pas un fonctionnement fort et tout ça? C'est comme essentiel à la communauté.
Mais qu'on date de 50 ans, puis le budget qu'on a date de 50 ans aussi.
Non, 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 c'est pas possible. Il faut faire une révolution.
Oui, on est dans le processus.
Ben oui, ben je vous souhaite de la gagner, c'est super important. Puis vous devriez avoir des appuis de partout au Canada pour se faire, parce que un centre culturel canadien-français ou francophone
c'est de renforcer. Je veux dire, on s'en va pas.
On est dans l'essentiel.
Yeah. Mais il faut renforcer, il faut solidifier la fondation parce que elle est précaire.
Écoute, essentiel. Je vous le souhaite à mille à l'heure. Merci, belle femme que vous êtes. De m'avoir éclairé sur tout ce qui se passe ici. Puis j'espère que cette conversation sera entendue et qu'on continue ensemble cette belle aventure en français.
Merci beaucoup à toi.
Merci encore de votre écoute. J'espère vous retrouver tout au long du parcours balado. Je vous dis à la prochaine.